السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، en cette soirée du samedi 5 du samedi 22-6-1431 de l'Hijr, ce qui correspond avec le 5-6-2010. Inch'Allah ta'ala, nous sommes dans le dernier cours du livre Les Fondements de la Foi de l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah. Donc inshallah ta'ala, on va terminer ce qui reste aujourd'hui. C'est d'ailleurs c'est reste pas beaucoup. D'abord une petite révision. Que procure la foi au destin par rapport au croyant? Bon, il y a le croyant et il y a celui qui ne croit pas. Celui qui croit, le croyant, que lui procure le fait qu'il croit au destin? Premièrement, le musulman compte sur Allah Azza wa Jal lors de ses actes, sans toutefois compter sur les moyens qu'il utilise. Car toute chose est prédestinée par Allah Ta'ala. Donc, quand quelqu'un croit au destin, quand il va utiliser des moyens, il va bien sûr faire des efforts pour utiliser des moyens. Il ne va pas dormir et dire: si c'est prédestiné, ça doit m'arriver. Non. Mais il va faire des efforts. Mais tout en faisant des efforts, qu'est-ce qu'il fait? Non. Que lui procure la foi au destin, ça lui procure le fait que, même en se basant sur les sabab et les causes, il compte d'abord sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il compte d'abord sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout en comptant sur Allah azza wa ta'ala et sur son destin, il va quoi? Il va utiliser les causes et les moyens. Deuxièmement, l'individu ne s'enorgueillit pas lorsqu'il réalise son objectif, car sa réalisation n'est autre qu'un bienfait d'Allah qui se résume à la prédestination des moyens de bien et de réussite. Deuxièmement, c'est pour ça qu'il dit, par contre, lorsqu'il se gonfle d'orgueil, il oublie de remercier Allah de ses bienfaits. Non. Celui qui croit à la prédestination et au destin, quand il lui arrive quelque chose de bien, il ne va pas quoi s'enorgueillir et se gonfler d'orgueil. Mais il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir facilité et de lui avoir mis dans sa prédestination qu'il allait avoir cette faveur. Tandis que celui qui ne croit pas à la prédestination, il va dire: c'est moi, vous voyez comme je suis fort, vous voyez comme je suis intelligent, vous voyez comme j'ai des connaissances solides, vous voyez comme je rate pas les occasions, vous voyez comme je souffre. Et comme ça, il commence à quoi? À se faire des éloges et à s'auto-admirer. Et enfin, le musulman trouve quoi? Il trouve la quiétude et le repos de son âme à travers la réalisation de son destin. Par conséquent, il ne s'inquiète pas lorsqu'il manque l'occasion de réaliser ses désirs ou lorsqu'il est touché par un malheur. Car tout cela n'a lieu que par le destin inéluctable d'Allah Azza wa Jal, possesseur des cieux et de la terre. Et troisième chose magnifique, qui est procurée au croyant, celui qui croit au destin, c'est quoi? C'est deux choses, hein? C'est deux choses dans la troisième. La première, lorsqu'il manque l'occasion de réaliser un de ses projets, un de ses souhaits, un de ses désirs, qu'est-ce qu'il fait? il a le cœur, serein, et il est tranquille, et il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. قدر الله وما شاء فعل. اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. Comme ça il dit. Et la même chose, quand il a un malheur, quand il est touché par un malheur, il dit comme ça. Et aussi quand quelque chose, yani de bien, lui passe, yani, sans qu'il saisisse l'occasion de l'avoir. Qu'est-ce qu'il dit ? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Tandis que celui qui ne croit pas au destin, qu'est-ce qu'il va faire ? Yani, il va. Non. Il va hurler, il va se tirer les cheveux, il va peut-être même yani, critiquer le destin, s'il y croit bien sûr. Il va yani, même, astaghfirullah, il peut même critiquer son créateur. Non. Et il peut même l'insulter ou l'insulter l'islam ou là. Non. Tandis que celui qui croit au destin, il a le cœur apaisé, il sait que rien n'arrive. Non. Dans ce monde, si ce n'est avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si Allah ta'ala m'avait voulu, yani, cette chose qui est bien pour moi, je pense est bien. Si Allah ta'ala m'avait voulu, m'avait écrite sur la tablette préservée, elle arriverait, yani, de force, yani, c'est-à-dire que personne, ni les djinns, ni les humains, ne pourraient l'arrêter, ni l'entraver. Quand Allah ta'ala me veut un bien, si tout le monde et tous les soldats du monde allaient se mettre d'accord pour l'empêcher d'arriver, elle arrivera. Et même pour le malheur, si Allah Ta'ala écrit un malheur pour une personne, tous les gens du monde, toutes les personnes du monde, non, si elles venaient à se mettre d'accord pour nous faire éviter ce malheur, elles ne pourraient le faire. Et voilà le cours d'aujourd'hui. Deux groupes se sont égarés au sujet du destin. Le premier groupe s'appelle Al-Jabriya. C'est très important dans la Aqidah, il faut connaître ça. Deux groupes, deux grands groupes, qui sont d'ailleurs aux extrêmes, aux opposés, se sont égarés au sujet du destin. Ils n'ont rien compris dans le destin et se sont égarés. Le premier groupe s'appelle Al-Jabriya. Le deuxième groupe s'appelle Al-Qadariya. Al-Qadariya. On va dire c'est quoi Al-Jabriya et c'est quoi Al-Qadariya. Ensuite, on va réfuter yani, leurs preuves et leurs dalils. Normalement, Al-Jabriya et Al-Qadariya, ils ont des noms français. Des noms français, yani, traduits comme ça en français. Ça existait dans la Aqida, je connaissais leurs noms. Mais maintenant, ça fait longtemps. J'ai pas employé ces deux mots, donc j'ai oublié comment on dit ça en français. Al-Muhim. Le plus important, ce n'est pas comment qu'il s'appelle en français. Le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Jabriya, qu'est-ce que ça veut dire Qadariya. Et en parlant des personnes, on dit cette personne, c'est une Jabrite. Non, attention, il faut mettre en garde contre elle. C'est une Jabrite. Et l'autre, c'est une Qadarite. Tayyib, Al-Jabriya, les fatalistes. Jazakallahu khairan, les fatalistes. Non. Et les autres, Al-Qadariya, les partisans du libre-arbitre. Jazakallahu khairan. Donc, Al-Jabriya, qu'est-ce qu'ils disent les fatalistes? Ils disent que tout est écrit par Allah subhanahu wa azzawajal. Naam. Toutes les fautes que tu commets, tous les péchés que tu fais du matin au soir, si tu les fais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a écrits contre toi. Naam. C'est pas ta faute. Et par conséquent, tout ce que tu fais pas comme bien, c'est aussi écrit que tu ne le fais pas. Pourquoi tu ne pries pas? C'est Allah Ta'ala qui ne m'a pas encore écrit que je prie. Pourquoi tu jeûnes pas? Allah Ta'ala ne m'a pas encore guidé. Pourquoi tu ne mets pas le voile? Allah Ta'ala ne m'a pas encore guidé. Et comme ça, ça vient de lui, c'est pas de ma faute. Ça s'appelle Al-Jabriya. Et les autres, Al-Qadariya. C'est tout à fait le contraire. Les partisans du libre arbitre. Rien n'a été écrit par Allah. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le destin. Tout ce qu'on fait, c'est nous qui le faisons. Non, tout ce qu'on fait, c'est nous qui le faisons. Si tu fais quelque chose de bien, c'est pas Allah Ta'ala qui t'a aidé. Ni t'as ouvert la porte, ouvert sa porte pour l'aider. Ni. Non. C'est toi qui as fait cette chose de bien. Tu te remercies toi, tu te remercies pas Allah Ta'ala. Si c'est quelque chose de mal qui t'arrive, cette chose de mal n'est pas venue d'Allah Azza wa Jal, elle est venue de toi. C'est toi qui l'as faite. Donc, deux sectes opposées. D'ailleurs. Donc les Jabrites, ce sont ceux qui disent que les œuvres de l'individu lui sont imposées, sans que celui-ci n'ait de volonté ni de capacité. Et les Qadarites, ce sont ceux qui disent que l'individu était libre arbitre dans le choix. Et libre arbitre dans le choix et la capacité de faire ses œuvres, et que la volonté d'Allah Azza wa Jal n'a aucune influence sur ses œuvres. Nous allons d'abord réfuter les dires des Jabriya, ensuite les dires des Qadarites, en nous appuyant sur les textes religieux et sur la réalité des choses. Les textes religieux, vous allez voir les textes, Coran, Sunna. Ensuite, la réalité des choses qui prouve que ce qu'ils disent ne tient pas debout et n'a aucun sens. Premièrement, les textes religieux, pour réfuter quoi ? Les dires des Qadarites, des Jabrites d'abord, des Jabrites. Premièrement, donc les Jabrites, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que tout ce qui nous arrive est imposé. Nous, on n'a aucune volonté ni capacité. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va leur dire, Allah ta'ala a confirmé dans son Coran la volonté et la détermination de l'individu. Il lui a attribué la capacité d'agir. Allah ta'ala a dit, qu'est-ce qu'a dit Allah ta'ala ? Sourate Ali Imran, verset 152. Allah ta'ala a dit, il en est parmi vous, là il en était, ma'alèche, j'ai ici, il en est parmi vous qui désirent la vie d'ici-bas. Et il en est parmi vous qui désire l'au-delà. Donc, Allah Ta'ala, regardez ici le verset, il est clair que Allah Ta'ala a dit, il y en a parmi vous qui désirent. Donc, qui désire ? Qui ? Vous, il a dit vous, parmi vous. Donc on a un désir. Donc on a une volonté de désirer. Et il en est parmi vous qui veulent l'au-delà. Donc Allah Ta'ala a divisé les gens en deux sortes. Des gens, pour Allah, se divisent en deux. Ceux qui veulent ce bas monde et ceux qui veulent l'au-delà. Donc, si on ne pouvait pas œuvrer pour ce bas monde ou pour l'au-delà, pourquoi Allah Ta'ala aurait dit, il y en a parmi vous qui veulent cette dunya et d'autres qui veulent l'au-delà. Donc, c'est une preuve qu'on veut et on désire. On veut et on désire. Il a dit aussi, dans Sourate Al-Kahf, verset très connu, Sourate Al-Kahf, verset 29. Il a dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Et quiconque le veut, qu'il m'écroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Sourate Al-Kahf 29. Donc, où est le témoin du cours ? Quiconque le veut, qu'il croit. Et quiconque le veut, qu'il m'écroit. Donc, toi, si tu veux, tu crois. Et si tu veux, tu m'écrois. Donc, tu crois, Allah Ta'ala t'a donné une volonté. Donc, c'est toi qui veux croire et c'est toi qui veux m'écroire. Ce n'est pas Allah qui décide de toi. C'est toi qui décides. Bien sûr, Allah Ta'ala va te décider si tu veux le bien. Donc, mais c'est toi qui veux d'abord. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre verset, n'est pas ici le verset, mais très connu, que Allah Ta'ala ne fait rien changer en un peuple jusqu'à ce que le peuple décide lui-même de faire changer. Vous comprenez ? Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala ne change rien en un peuple, ou là en un groupe, ou là en un individu, jusqu'à ce que ce groupe-là, ou là ce peuple, ou là cet individu, lui-même commence à changer. C'est-à-dire, pour que vous compreniez bien, si quelqu'un reste dans un bar avec sa bouteille de vin, et il dit, j'attends que Allah Ta'ala fasse descendre la guidée dans mon cœur pour que j'arrête de boire et je commence la prière. Jamais, au grand jamais, Allah Ta'ala ne lui fera ça. Sauf si c'est un miracle, spécialement pour lui. Mais Allah Ta'ala, pourquoi il ne fera pas ça? Car il a dit dans le Coran, il a dit, jamais je ne fais une chose pour la personne si elle elle ne commence pas d'abord par faire. Ça veut dire cette personne qui est dans le bar, si maintenant elle décide, elle dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus boire et je vais commencer à faire la prière. Juste, elle a fait ce petit vœu dans son cœur, cette petite intention, Allah subhanahu wa ta'ala valide. Il va lui embellir ce projet dans son cœur. Et la personne va, ça va lui être facilité de quoi ? De commencer la prière et de faire les ablutions, etc. etc. Pourquoi ? Elle a fait quelque chose dans son cœur. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit dans un autre hadith Qudsi, je vous l'ai cité mille fois, il dit, mon serviteur, si tu te rapproches de moi d'un lampon, je me rapproche de toi d'une coudée. Si tu viens vers moi en marchant, je viens vers toi en courant. Mais fais quelque chose, c'est tout, fais quelque chose. Comprenez, fais quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui compte la suite et fait le gros. Mais à condition qu'il y ait l'étincelle dans ton cœur. C'est pas tu dis, la même chose pour le voile. Hein, pourquoi tu ne te voiles pas? J'attends, si c'est écrit, je serai voilé, si c'est écrit. J'attends yani, que Allah Ta'ala me guide. Peut-être aussi qu'elle attend que l'ange Gabriel, va descendre avec un voile et va venir te chercher à la maison où tu habites, frappe à la porte, te dit voilà, Allah Ta'ala t'a envoyé le voile, il faut le mettre. Non, mais toi tu bouges dans ton cœur, tu dis c'est vrai, hein, il faut le voile. En fait, je suis dans le péché. Non, il faut que je fasse quelque chose. Et tu commences à demander à Allah Ta'ala de t'aider. Et lui, il va vite t'aider. Donc Allah Ta'ala dit ici, il a dit, quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il me croit. Donc c'est une preuve que on veut. Si on veut croire, on croit. Si on ne veut pas, on me croit. Allah Ta'ala dit dans un autre verset, Sourate Fussilat. Verset 46, il a dit, quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers ses serviteurs. Donc, ce verset est aussi clair que nous pouvons faire des choses. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Qui fait la bonne œuvre? C'est là ou là, c'est la personne. C'est la personne qui l'a fait. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et qui fait le mal? Quiconque fait le mal, c'est toi qui fais le mal. Et si tu le fais, tu fais le mal, qui est le perdant? C'est toi. Tu l'as fait à tes dépens. Allah Azza wa Jal n'est point injuste. Il est impossible que tu fasses une bonne œuvre et que Allah Ta'ala l'écrive, quoi? L'écrive comme péché. Allah Ta'ala, il t'a dit, je ne suis pas injuste. Au contraire, tu fais juste une petite chose, il te la décuple. Il te donne 10. Tu fais une bonne œuvre, il t'écrit minimum 10, jusqu'à 100, jusqu'à 1700, et des milliards d'après ton intention. Donc Allah Ta'ala, c'est le plus juste. Naam. Quant à la réalité des choses, maintenant c'était les versets. Maintenant on va prouver par la réalité des choses que la personne elle-même a quoi ? A une volonté, une capacité de faire des choses, contrairement aux fatalistes qui ont dit non, qui ont dit que tout vient, yani, du destin. Al-Muhim. Il dit ici, certes, tout individu fait la différence yani, entre ses œuvres volontaires, telles que le fait de manger, boire, vendre ou acheter, et ses œuvres involontaires, telles que le fait de trembler à cause d'une fièvre, de tomber du toit, et comme ça. Vous voyez, tout individu fait la différence entre les œuvres volontaires, telles que manger, boire, vendre, acheter, écrire, parler, rire, et entre quoi? Et entre les œuvres involontaires telles que lorsque tu trembles, lorsque tu as la fièvre, tomber du toit. Naam. Disons pour la femme, avoir les menstrues. Naam. C'est pas elle qui commande, ça vient comme ça. Dans le premier cas, l'individu a le choix de pratiquer ses œuvres par sa propre volonté sans aucune contrainte externe. Quand c'est le fait d'acheter, de boire, de manger, de vendre. Dans le deuxième cas, la fièvre qui vient d'elle seule ou bien tomber du toit ou bien glisser, etc., il n'a ni le choix ni la volonté sur ce qui lui est arrivé. Donc, il y a une différence entre ce qu'on fait nous et on peut le faire, on peut ne pas le faire, et ce qui nous vient, yani, ce qui nous est contraint. Naam, c'est comme par exemple la faim. Est-ce que quelqu'un peut se retenir et dire, moi, je peux par exemple ne pas avoir faim, yani, des mois et des mois? Est-ce que quelqu'un peut se retenir et dire, moi, je peux ne jamais dormir, je peux ne jamais boire de l'eau, je peux ne jamais aller aux toilettes? Ce sont des choses, hein, que tu es contraint de faire, qui te sont imposées. Naam. Et il y a d'autres choses qui, c'est toi, hein, tu es libre de les faire ou de ne pas les faire. Maintenant, avec vous dans le cours, je suis libre d'arrêter le cours et yani, d'éteindre le micro et d'aller, je vais où? Je vais à la mosquée ou je vais au marché, je suis libre. Mais il y a des choses qui me sont yani, forcées, yani, que je n'ai pas le choix. Maintenant, nous allons à présent réfuter les preuves des qadariyas. Les qadariyas, ceux qui disent que il n'y a rien sur la table préservée. Que tout, c'est nous qui le faisons. Il n'y a pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous. Tout revient à nous. Le bien et le mal. Premièrement, on va citer les textes religieux. Naam. Allah ta'ala dit dans le Coran, Sourate al-Baqarah, verset 253. On va leur prouver que Allah ta'ala a une quoi? A une volonté, et c'est lui qui commande, c'est pas nous. Écoute, regardez ce verset. Si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont opposés, les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qui nous intéresse ici dans ce long verset? Ce qui nous intéresse, c'est lorsque Allah Ta'ala a dit, et si Allah avait voulu, hein, les gens qui vinrent ne se seraient pas entretués. Et il l'a dit à la fin aussi, dernière phrase, si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Donc, le fait de s'entretuer, c'est venu d'où? C'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a voulu qu'ils s'entretuent. Quand je dis il a voulu, une volonté quoi? Universelle. Ça ne veut pas dire qu'Allah ta'ala a aimé. Sauf bien sûr, quand c'est la guerre sainte, ça devient une volonté juridique. Un moyen. Pour prouver ici que Allah Ta'ala, yani, s'il y a des choses qui viennent de lui, que tu le veuilles ou pas. Le fait qu'il se soit entretué, c'est venu ici d'Allah Azza wa Jal. S'il avait voulu, il ne se serait pas entretué. Donc c'est lui qui a voulu qu'il s'entretue. C'est pas toi. Donc c'est une preuve que, contre qui? Contre yani, les qadarites qui disent qu'il n'y a rien dans le destin. Allah Ta'ala ne fait rien, c'est nous qui faisons tout. Deuxième verset. Sourate Sijda. Verset 13. Si nous le voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Les djinns, vous savez, c'est qui? C'est les... Les djinns, comment on dit en français? Je ne sais pas comment on dit les djinns en français. C'est-à-dire, disons, les esprits ou la... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Les djinns, voilà, les djinns. Naam, barakallahu fik. C'est quoi ici le témoin du dos? Si nous voulions, si on veut, on va apporter, c'est-à-dire on va donner à chaque âme sa guidée. Mais Allah Ta'ala a déjà voulu que il fasse emplir l'enfer de beaucoup de génies, beaucoup d'hommes. Donc que l'enfer reste vide, que Allah Ta'ala, l'enfer, vous savez, il est déjà créé, ça. Il ne va pas être créé, il est déjà créé. Il n'a pas commencé à travailler, bien sûr. Mais il est déjà là. Le paradis est déjà créé. Donc à quoi ça sert de créer un enfer si Allah Ta'ala ne savait pas qu'il allait y jeter à l'intérieur plein de génies et plein d'hommes? Les hommes, ce sont qui? Ce sont les mécréants et ce sont aussi les musulmans qui n'appliquaient pas et qui faisaient beaucoup de péchés, etc. Et la différence entre les mécréants et les musulmans, c'est que les mécréants resteront éternellement et les musulmans resteront un certain temps, un mois, une année, 20 ans, un milliard d'années, je ne sais pas combien, d'après le péché. Ensuite, ils sortent. D'ailleurs, maintenant, quand Allah Ta'ala a dit, si nous voulions bien, si on veut, on apporte à chaque âme sa guidée. Ça veut dire, en d'autres termes, si Allah Ta'ala veut, nous tous, on serait croyants. Il n'y aurait personne qui serait mécréant. Mais Allah Ta'ala a choisi seulement certains et pas tout le monde. Pourquoi ? Et certains vont dire, et pourquoi donc il a choisi X et il ne m'a pas choisi moi ? Ou alors pourquoi il a choisi X, il n'a pas choisi mon père et ma mère, ils sont morts dans la mécréance. Et comme ça, chacun va poser sa petite question et va dire pourquoi moi il ne m'a pas choisi, pourquoi il ne m'a pas choisi mon père, miskin, il est mort bouddhiste, l'autre il va dire ma mère elle est mort chrétienne, l'autre il va dire mon grand-père est mort juif, pourquoi il ne m'a pas choisi ? Réponse très simple. D'abord, est-ce que toi, c'est juste pour rapprocher l'idée, pour rapprocher le sens. Est-ce que toi, si jamais demain tu vas faire une fête ou un mariage, est-ce que tu vas comme ça sortir dans la rue, prendre un micro, ou là les baffles, comment ça s'appelle, microphone, et appeler comme ça tout le monde, dire tout le monde est invité. Ça veut dire que tous les soulards, tous les clochards du monde qui seront présents, qui t'auront entendu, donc viendront assister à ce mariage. Ou bien, est-ce que, surtout que clochard 07 vient de rentrer dans le salon, ça me fait rire, ça tombe bien. Donc, ou bien est-ce que tu vas envoyer à fond des cartes de visite pour bien. Pour bien choisir les invités qui vont t'honorer. Ça, tu vas me dire que sûrement tu vas choisir la deuxième méthode et non pas la première. Imagine, ça c'est pour juste un mariage. Qu'en est-il maintenant pour le paradis? Le paradis qui ne va contenir que les âmes les plus pures. Et pour les beaux délices, pour les plus beaux délices, pour les choses que tu n'aurais même pas rêvé. Dans tes rêves, tu ne vois pas, et tu ne peux pas rêver ce qu'il y a dans le paradis. Est-ce que d'après toi, donc, toute personne va rentrer dans le paradis? Alors qu'il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment, qui aiment le mal, des sadiques, des criminels, des odieux, je ne sais pas comment vous dire. Vous pensez que ceux-là, vont aussi comme ça rentrer en groupe? Non. Il faudrait qu'ils soient choisis. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il y ait une personne qui voudrait Allah Ta'ala et voudrait son paradis et voudrait son visage et voudrait sa rencontre et voudrait, être avec les messagers, les pieux et les vertueux? Et Allah subhanahu wa ta'ala va l'éloigner, et ne va pas lui exaucer son vœu. C'est impossible. Donc, si la personne, demain, au jour de la résurrection, elle va se trouver de l'autre côté, pourquoi? C'est que dans cette vie, elle n'a rien fait, au moins avec son cœur. Elle n'a rien fait avec son cœur, aucune bonne intention pour qu'elle soit du côté de Allah subhanahu wa ta'ala et ses bien-aimés. Rien. Cette personne n'a jamais pensé à faire un petit effort pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à faire un petit effort pour appliquer, à faire un petit effort pour se rapprocher de Allah. Rien. Elle n'a jamais pensé à ça. Au contraire, cette personne détestait. Si on lui parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien de l'islam ou bien de Muhammad alayhi salam ou bien... elle sortait de ses... Elle perdrait le contrôle tellement elle s'énerverait. Et elle dit, je ne veux pas entendre parler de ça. Ne me parlez pas de l'islam. Ne me parlez pas de votre Allah. Ne me parlez pas de votre Mohammed. Et comme ça. Ensuite, donc, ce serait très logique, donc, Allah Azza wa Jal, donc, l'éloigne de lui. Cette personne ne me veut... Allah Ta'ala dit, cette personne... ne me veut pas, il ne veut pas, ce que je lui ai préparé comme délice, etc., comme cadeau, comme rétribution, elle ne le veut pas. Cette personne me hait. Cette personne, elle ne fait aucun effort pour essayer de se rapprocher de moi. Donc, pour tout cela, pour que vous sachiez que Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est le plus juste. Il a dit dans le Coran, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, c'est dommage, j'ai pas le verset devant moi. Il a dit, إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. Il a dit, si Allah sait ou bien connaît du bien dans vos cœurs, il vous donnera du bien. Il a dit dans un autre verset très clair, pour les gens qui n'ont pas quoi, qui n'ont pas guidé. Il a dit dans un verset très clair, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَسْمَعَهُمْ. Et si Allah Ta'ala avait voulu, il les aurait guidés. Asma'ahum, c'est-à-dire, il leur aurait fait entendre. Entendre. Non, entendre ici, ça veut dire guider. Il les aurait guidés. Mais Allah Ta'ala a dit, juste après ce verset, وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Mais si Allah Ta'ala les avait guidés, ils s'en seraient détournés. Donc il sait. Il sait que cette personne ne mérite pas d'être guidée. Pourquoi ? Il sait qu'en la guidant, elle ne va pas accepter. Juste un jour ou les deux jours là, elle va tout jeter et elle va aller dans le chemin opposé. Allah Ta'ala, c'est qui ? C'est le plus sage. Et le sage, c'est celui qui met sa chose en sa place. Donc pourquoi mettre la guidée dans le cœur d'une personne qui va se rébeller, ne pas accepter, se révolter contre ces choses. Allah Ta'ala choisit les meilleures personnes et il met la guidée dans leur cœur. C'est pour ça que je relis ici le verset, il a dit, si on avait voulu, on aurait apporté à chaque âme sa guidée. Mais Allah Ta'ala sait que certains, ou là, tous ceux auxquels, ou là, toutes les personnes que Allah Ta'ala n'a pas guidées, il sait qu'elles ne méritent pas. Non, elles ne méritent pas et que la guidée, yani leur place n'est pas un emplacement pour la guider. Leur place, leur cœur n'est pas un emplacement pour la guider. Al-Muhim. Ensuite, il a dit ici, quant à la raison, quelle est la preuve maintenant que quoi? Que donc on est en train de prouver quoi? On est en train de prouver que Allah Ta'ala a une volonté, ça? Par la raison. L'univers entier, voilà le délit, la preuve. L'univers entier appartient à Allah. Vous êtes d'accord avec moi que l'univers entier, tout entier, appartient à Allah. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cet univers qui n'a pas été créé par Allah? Une chose, hein? Pas une chose qui a été fabriquée par les gens. Une chose comme un arbre, voilà, une étoile. Et même les choses qui ont été fabriquées. La fusée, la voiture, la brosse à dents. Ce sont des choses qui ont été fabriquées. Fabriquées par qui? Par les êtres humains, ce n'est pas par les singes. Et les êtres humains, d'où ils sont venus? C'est Allah Ta'ala qui les a créés. Comprenez? Et l'être humain, pour pouvoir fabriquer la chose, la fusée ou la voiture, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il lui faut au moins? Au moins deux mains. Et les mains, d'où il les a eues? Il est allé chez je ne sais pas qui lui a fabriqué deux mains. C'est Allah Ta'ala qui lui a donné deux mains. Et plus important que les deux mains, pour fabriquer une chose, qu'est-ce qu'il faut? Mokh, la cervelle, ça? Quelqu'un, yani un fou, peut-il fabriquer une chose? Peut-il construire une maison ou là? Il ne peut pas. Il faut qu'il ait la raison. Ça, la raison qui te l'a donné, Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut te la donner, s'il veut, il te la prend, et tu deviens fou, tu marches dans la rue, on te frappe avec des cailloux. Donc il dit, l'univers entier appartient à Allah. Et l'être humain faisant partie de cet univers appartient lui aussi à Allah. De là, l'esclave ne peut agir à son gré dans le royaume de son maître que par la permission et la volonté de son maître. Je répète, c'est très important. L'univers entier appartient à Allah. Et l'être humain faisant partie de cet univers appartient lui aussi à Allah. De là, l'esclave, qui est l'être humain, ne peut agir à son gré dans le royaume de son maître que par la permission et la volonté de ce dernier. Non, moi, si je reconnais que je suis esclave chez quelqu'un, ça veut dire que je ne bouge pas le petit doigt sans lui demander la permission. Je demande la permission à mon maître. Est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux boire cette chose? Est-ce que je peux lire ce livre? Est-ce que je peux m'asseoir sur ce divan? Est-ce que je peux prendre cette voiture pour la conduire? Est-ce que je peux dormir? Est-ce que je peux aller dans cet endroit? Et comme ça. Même en islam, quand il y avait l'esclavage. L'esclave n'a pas le droit d'aller au hajj s'il n'a pas la permission de qui? De son maître. Même à la Jumu'ah, il ne va pas à la Jumu'ah, sauf si son maître le lui permet. Qu'en est-il donc nous par rapport à notre créateur qui nous a créés, c'est-à-dire d'après ici les kadarites, d'après eux, on peut faire ce qu'on veut dans ce monde, c'est nous qui sommes libres, Allah Ta'ala, c'est comme s'il n'existait pas. On dit, bien au contraire, tu ne peux faire une chose sans que Allah Ta'ala ne te le permette, naam, et ne le veuille. Quand je dis il veut, une volonté universelle, bien sûr, pas juridique. Voilà, inshallah ta'ala, pour ce livre qu'on a fini, alhamdulillah, le prochain samedi, inshallah ta'ala, on revient à, comme d'habitude, une fois, le jardin des vertus Riyad Salihin, et une fois, un autre livre qu'on commencera samedi prochain, inshallah ta'ala, toujours dans la Aqida. Comme ça, on laisse toujours un livre dans la Aqida, qui marche avec nous une fois tous les 15 jours bi'idhnillahi azza wa jal. Subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je suis prêt inchallah ta'ala à écouter les 5 premières questions, surtout si elles ont rapport avec la aqida d'abord, et surtout si elles ont rapport aussi avec par exemple le destin d'abord. Sinon les autres questions me fiche mouchki inchallah ta'ala. Tfaddal.
Donc les 5 premières questions, donc je répète celles que j'étais en train de lire. Donc question de Soraya. Salam alaikum Cheikh. Une sœur est enceinte de 4 mois. Les médecins lui ont dit que son fœtus n'est pas viable, car après une amniocentèse, il s'avère que lors de la fécondation, il y a eu 2 spermatozoïdes pour un ovule, donc un triploïde. Entre parenthèses, il n'a pas de reins ni de bras. Dilatation du cerveau, plus de liquide amniotique, et il a 3 paires de chromosomes. Les médecins lui ont donné des médicaments pour arrêter le rythme cardiaque du fœtus. Ils lui ont dit qu'un accouchement brutal qui aurait lieu à son domicile aurait des conséquences. Sa césarienne de son... Alors, ils lui ont dit qu'un accouchement brutal qui aurait lieu à son domicile aurait des conséquences. Sa césarienne de son premier enfant. Enfin, la chère, la dernière. Et la sœur donc dit, que doit-elle faire? Est-ce que c'est illicite d'avoir pris ses médicaments? Que peut-elle faire pour se rattraper? En ce qui concerne le fœtus, que faut-il faire? Allah jazakum bi khair. Sur sa césarienne. Naam, chère, c'est pas très clair. Elle dit. Ils lui ont dit qu'un accouchement brutal qui aurait lieu à son domicile aurait des conséquences. Sa césarienne de son premier enfant. Entre parenthèses, hernie. Balak, par rapport à un premier enfant qu'elle a eu, elle avait dû subir une césarienne. Et si elle accouchera en fait sur cet enfant, non, ça aurait des conséquences. Elle pourrait avoir une hernie au niveau de sa césarienne. Anna, je l'ai compris comme ça, cher. Naam. Donc, question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Voilà ma situation. Je suis une sœur tunisienne. J'approche la 20aine. Mes parents veulent me marier de force et m'ont dit qu'ils allaient me forcer à retirer mon djilbab d'ici peu de temps. Ils veulent me marier de force avec mon cousin qui est en Tunisie pour qu'ensuite il vienne en France, et à cause de cela, mes parents me tapent. Je ne veux pas de ce mariage, et au contraire, je veux ma religion. Car même si mes parents font la salat, ils ne connaissent pas le dîn, ils ne veulent rien entendre. Je veux me marier avec un frère salafi et pas n'importe qui, bien que j'ai demandé l'avis d'un imam dans ma ville qui malheureusement a dit ceci. Ce que tu devrais faire, c'est de partir vivre ailleurs. Et j'attends vos précieux conseils, chers, car cela m'aidera dans ma situation qui devient de plus en plus difficile. Barakallahu fikoum. Question suivante, Bilal. Assalamu alaikum, Shir. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, Inch'Allah, ainsi qu'à votre famille. Comment choisir qui suivre comme savant? Car je suis un peu perdu avec les avis différents de chacun, avec ou sans divergence. Barakallahu fikum. Question de Abu Sulaiman 13. Assalamu alaikum, Shir. Qu'Allah vous augmente en science et qu'il fasse de vitres descendance des guides pour la Ummah. Voici ma question. J'ai récemment trouvé une Bible par terre, laissée à l'abandon, à côté d'une poubelle. Ma conscience religieuse m'a tout de suite dit de ramasser cette Bible. Maintenant, je voudrais savoir si c'est utile que je la brûle ou non. Je sais que cette Bible n'est pas complètement falsifiée, mais qu'elle n'a rien à voir avec l'évangile qu'Allah a fait descendre sur Isa, alayhi salam. Non, et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi il faut brûler les versets. Pourquoi faut-il brûler les versets du Coran, entre parenthèses, sur des vieux calendriers et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikoum. Donc, dernière question. Safia, assalamu alaikum cher, qu'Allah vous accorde une belle récompense ainsi qu'aux admins. Je voudrais savoir s'il est permis de faire tourner le Coran en audio dans la maison quand on s'absente. Pensant que cela est bénéfique. Jazakumullah. Tfadal cher.
Fils saute. Est-ce que vous m'entendez? Non, je n'ai pas compris la troisième question qui parlait des savants. Comment connaître Yanni? Est-ce que la personne veut dire quels sont les noms des savants qu'on doit lui donner? Est-ce que c'est ça? Et enfin, pour la quatrième question, celle de la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Pourquoi faut-il brûler la Bible ou le Coran? Ensuite, il a dit sur les calendriers. J'ai pas fait la liaison entre ce qu'il a dit et les calendriers. Tfadal.
Non, cher. Donc par rapport aux frères et les savants, Allahu alam, je ne pense pas qu'il veut savoir ce qu'il dit. Comment choisir qui suivre comme savant, car je suis un peu perdu avec les avis différents de chacun, avec ou sans divergence. Donc Allahu alam, en fait, si là il parle déjà des chouyours du minhaj salafi, ou là s'il parle des personnes qui se prétendent savants et de ceux qui sont véridiquement des savants. Allahu alam.